France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Quand j'ai commencé mes études, j'avais une image de héros en blouse blanche avec les petits animaux mignons. Alors bien sûr que c'est beaucoup ça, mais on a beaucoup d'autres contraintes qu'on ne s'imaginait pas quand on faisait des études.
Vétérinaire, des écoles au terrain, la montée d'un mal-être. De burn-out en suicide, le monde vétérinaire est traversé par des drames qui secouent notamment les écoles de formation en France et questionnent sur cette situation de crise dans la profession. Pourquoi ce métier passion génère-t-il des troubles psychologiques et affiche un taux de suicide environ 4 fois plus important que celui de la population générale? Quels sont les facteurs qui y contribuent et quelles mesures devraient être prises en urgence? Du vétérinaire de ville au vétérinaire de campagne, regard porté sur cette profession en souffrance et sur les défis à relever avec nos deux invités. Corinne Bisbach, bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire et libéral depuis 1989, diplômé de l'école diplômé de l'école de Lyon, ancienne vice-présidente du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Et depuis 2013 jusqu'à décembre 2025, vous avez rempli le rôle de responsable de la commission sociale de l'ordre des vétérinaires. Avec nous également en distanciel, Didier Truchot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités, Université de Franche-Comté, spécialisé en psychologie sociale et auteur de plusieurs études sur la santé vétérinaire en France. Et vous êtes vice-président du réseau de recherche sur la qualité vie au travail en santé. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à nos auditeurs, que je salue chaudement. Et dans le cadre du magazine de l'environnement, nous sommes toujours aussi en partenariat avec le journal Le Monde. L'émission toujours préparée par Célestine Babinet, avec la collaboration d'Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Anne Delaveau de Lina, Christine Anzano de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Élise Leu.
Le système de sélection en France est quelque chose, il y a un concours. Hein. Là pendant 2 ans, on est obligé de travailler. Et là entre les 2 années de classe préparatoire, ouais, j'ai eu une phase où je ne suis pas psychiatre. Quelque chose qui ressemblait à de la dépression, quand même. Quoi.
L'un de ses collègues et amis n'a pas supporté la pression et a mis fin à ses jours.
La mort de mon associé Thierry, effectivement, qui était plus qu'un collègue, c'était un peu, comme on dit, mon mentor, hein, c'est-à-dire qu'il était plus âgé que moi, c'était comme. Il avait l'âge entre le grand frère et le père, si vous voulez, quoi. Ça a été un choc qui était vraiment terrible. Ouais. Pendant plusieurs semaines, je m'attendais tous les matins à le croiser. Bon, en plus, on n'a pas pu voir le corps parce qu'il est allé se jeter sous un train.
Extrait d'un reportage diffusé sur Arte Regard le 18 mai 2023. Un métier passion rêvé qui nécessite des études réputées difficiles, qui laisse transparaître un mal-être et des suicides ces dernières années et dès les années de formation. C'est la réalité de ce métier aujourd'hui, Corinne Bisbach.
C'est une réalité du métier, ce n'est pas la généralité. Heureusement, il y a beaucoup de vétérinaires qui vont bien, qui s'épanouissent dans leur travail, qui sont heureux d'aller travailler. Mais c'est une réalité que, je pense, l'ensemble de la profession constate. Peut-être quelque part, et c'est l'étude de Didier Truchot qui nous le disait, accepte. Parvient à en parler avec beaucoup de distance tant qu'il s'agit pas d'elle et ou du professionnel, et qui par contre lorsque le professionnel commence à aller mal s'enferme dans son entre-soi et n'ose pas en parler sans doute pour des tonnes de raisons, mais oui, c'est une des réalités.
Nous allons en parler justement dans cette émission pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, la situation, ce qui peut générer ce mal-être et ces troubles. Des drames, Didier Truchot, qui continuent de meurtrir des écoles de vétérinaires, en dépit d'alertes lancées sur l'état psychologique des étudiants. Comment le vivez-vous, vous qui avez rédigé un rapport en 2024?
Savoir que des jeunes étudiants se suicident est toujours un ressenti effectivement dramatique et qui interroge. Ceci étant, c'est compliqué de porter un diagnostic comme ça de loin sur ces suicides récents, à la fois d'étudiants mais aussi de vétérinaires. Ce que l'on peut dire, c'est que aujourd'hui, les 4 écoles vétérinaires qui ont voulu mener ce travail de recherche, qui ont voulu identifier, parce qu'elles savaient bien qu'il y avait un malaise, un mal-être chez les étudiants, donc m'ont demandé de réaliser ce travail afin d'identifier, d'avoir une photographie, en tout cas une photographie objective du mal-être qui frappe les étudiants, et puis de chercher à en identifier les causes. Et ce qu'il faut savoir également actuellement, par-delà ces cas dramatiques évidemment, c'est que les écoles sont en train de mettre en place des préconisations. Il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu, il y a eu des réunions avec des 4 écoles, il y a eu au sein des écoles des réunions avec les personnels des étudiants, et les choses sont en train de se mettre en place. Petit à petit, on peut pas changer les choses du jour au lendemain, malheureusement. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit pour améliorer à la fois la qualité du travail, pour améliorer le contenu, pour améliorer l'environnement du travail des étudiants, et puis pour mettre en place également une écoute qui avait déjà lieu, mais pour renforcer l'écoute qui avait déjà lieu, qui était déjà disponible pour les étudiants.
Donc des situations considérées par les écoles et des situations aussi que l'on vit de façon inédite le 12 janvier 2026, par exemple, dans l'amphithéâtre Fragonard de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Une école qui a 260 ans a été décernée à titre posthume le titre de docteur vétérinaire à une jeune femme de 24 ans qui s'est suicidée avant la soutenance de sa thèse. Elle venait de commencer son internat à l'hôpital rattaché à l'école. On voit bien, Didier Truchot, que les écoles dont vous parlez, on peut les mentionner d'ailleurs, prennent quand même la mesure du phénomène aujourd'hui.
Ah, elles ne prennent pas quand même la mesure, elles prennent bien toute la mesure. Et je répète, ainsi, elles ont commandité cette étude. Les écoles ont commandité cette étude en me laissant toute la liberté d'agir. C'est-à-dire que, de leur part, il y avait vraiment la volonté de faire le point et de demander aux chercheurs que je suis de vraiment faire le point. Elles ont accepté de se mettre à nu sans vraiment me demander d'accélérer, de mettre davantage la lumière sur tel point qui serait plus positif ou de moins éclairer un point négatif. C'était vraiment la volonté des écoles. Je parle par leur nom, hein, mais ce que je veux vraiment témoigner de ça en tant que chercheur. Et évidemment, alors on parle beaucoup de Maison Alfort effectivement à l'heure actuelle, mais ce que je peux dire, parce qu'il y a eu ces drames à Maison Alfort, mais ce qui ressort très nettement des chiffres que j'ai, des statistiques, des résultats que j'ai pu obtenir auprès de 46% quand même des étudiants des 4 écoles, c'est que la détresse, comme le bien-être, puisque tout ne va pas mal non plus chez les étudiants vétérinaires, tous ne vont pas mal. En tout cas, la détresse, elle a le même niveau que ce soit à Toulouse, à Nantes, à Lyon ou à Maison Alfort, c'est-à-dire dans 4 écoles vétérinaires, il n'y a pas une école qui va plus mal que globalement que les autres écoles. Il n'y a pas une école où les étudiants seraient davantage déprimés, seraient davantage dépressifs ou anxieux.
Alors avant d'aller plus avant dans ce dossier, je me tourne vers vous, Corinne Bisbard. D'autres rapports ont été demandés ces dernières années. Un en 2022 sur la santé psychologique et physique au travail des vétérinaires français. Ça, c'est pour le compte du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et de l'association Veto Entraide. Et puis un en 2024 intitulé « La santé des vétérinaires français, une approche longitudinale ». Peut-être que vous pouvez nous en parler aussi.
Alors en fait, l'étude a été lancée à l'initiative du Conseil national de l'Ordre et de la Commission sociale, avec en association Veto Entraide, qui est une association connue de tous les vétérinaires et qui œuvre grandement à la prévention, justement, du suicide et du mal-être. L'étude a été lancée et commandée au professeur Truchot en 2019. Il a fallu l'installer, on a pris un petit peu de retard à cause de la crise Covid. Le premier but, c'était d'évaluer les tendances aux idéations suicidaires et aux suicides au sein de la profession. Parce que, c'est ce que je vous disais, si tous les vétérinaires savaient qu'on avait une propension dans la profession à se suicider, à un moment, on a vu apparaître des contre-vérités qui disaient bah non, c'est pas vrai, c'est pas, on n'est pas si touché que cela. Et avec Vito Entraide, on a dit bah on dispose d'aucun chiffre, il faut qu'on ait une étude menée de façon extrêmement scientifique, donc en fait confiée à des spécialistes pour évaluer ça. On a rapidement rajouté l'étude du burn-out et puis en constituant le questionnaire spécifique à la profession, avec Didier Truchot, le Conseil de l'Ordre et Vito Entraide ont décidé d'explorer aussi un petit peu d'autres pistes parce que le sujet était très vaste. Sur cette première étude, on avait ajouté aussi le workaholisme et un certain nombre de points. Et puis pendant la première étude, il est rapidement apparu qu'une étude nous donnait une photo de la profession à un moment donné, mais que par contre, on n'avait pas les liens de causalité à ce que l'on allait découvrir et aux résultats statistiques. Donc, toujours le professeur Truchot nous a proposé de procéder à une étude longitudinale. Donc il y a eu un deuxième questionnaire qui a été renvoyé au vétérinaire qui avait accepté de répondre au premier. C'est l'étude dont vous parlez, qui, elle, est sortie en 2024. Et puis, il y a eu un troisième volet en 2025 qui est sorti avec derrière une synthèse de faits. Donc, en fait, l'étude, elle s'est étalée de 2020 à 2025. Donc, on a quand même une idée et on a pu établir des liens de causalité sur des facteurs de personnalité, l'apparition du burn-out, le workaholisme.
Le workaholisme, c'est-à-dire
l'addiction au travail. Et en fait, c'est vraiment une des premières études mondiales faites sur toute une population d'une profession dans un pays donné. En parallèle, donc Didier Truchot vient de nous l'exposer, une étude a été lancée aussi dans les écoles.
Dans les écoles,
donc
oui.
En fait, ces études sont riches en statistiques, en éléments qui vont permettre à la profession de s'emparer de ces données pour mettre en place de la prévention et en fait essayer d'apporter les améliorations là où on va pouvoir les apporter.
Didier Truchot, alors tout d'abord, est-ce qu'on a des chiffres peut-être à donner, combien de suicides ou parmi les étudiants ou dans la profession et sur combien d'années? Et puis dites-nous quelles ont été les conclusions finalement, les résultats rendus de votre dernière étude, hein, des résultats rendus mi-octobre 2025. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence au niveau des écoles?
Alors, vous me posez des questions. Là, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour y répondre parce que les analyses, les variables mises en évidence, tant au niveau des effets que des causes, sont multiples. Nous sommes face à des phénomènes multifactoriels. Donc, c'est difficile de résumer en quelques mots ce qui ressort de ces études. En ce qui concerne donc les étudiants vétérinaires, ce qui est vrai, c'est que il y a un taux de dépression chez eux qui est particulièrement important. Il tourne autour de 42% au cours des 15 derniers jours. Hein. Bon, c'est vrai que l'enquête, le recueil des données a eu lieu un peu avant les examens. Donc, ceci peut expliquer une partie en tout cas du chiffre important. Ce qui est important de savoir, c'est le contexte actuel, c'est-à-dire que il y a effectivement un taux de dépression, il y a un taux de troubles anxieux, il y a un taux de troubles somatiques. Dépression, anxiété, troubles somatiques sont des éléments qui sont particulièrement corrélés, qui vont ensemble, donc particulièrement élevés chez les étudiants vétérinaires français. Mais quand je parlais du contexte, ce qui est important de savoir, c'est que il y a un taux de dépression qui va augmentant dans la population française en général. Il y a un taux de dépression qui va en augmentant chez les jeunes en général. On l'observe depuis 15-20 ans. C'est une progression linéaire. Et puis il y a un taux de dépression qui est particulièrement élevé chez les étudiants en général. Il y a une étude qui a été menée récemment à l'université de Bordeaux, où on retrouve chez les étudiants, alors toute filière cette fois-ci, qui est à peu près identique à celui des étudiants vétérinaires. Les étudiants vétérinaires ont un taux de dépression qui rappelle celui qu'on observe chez les étudiants en médecine. Il est un peu plus élevé chez les vétos, mais bon, il est assez proche. Et puis, j'ai évidemment, je lis régulièrement toute la littérature internationale. Et si on compare la littérature internationale, on s'aperçoit que le taux de dépression chez les étudiants vétérinaires français est égal à celui que l'on observe à l'étranger, c'est-à-dire dans d'autres écoles vétérinaires, en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., etc. Il y a même une étude qui vient de sortir en 2025, toute récente, sur des étudiants vétérinaires autrichiens, et on a un taux de dépression qui est encore plus élevé, je crois que c'est 51 ou 55%, je me souviens plus exactement, mais c'est au-delà de 50%, chez les étudiants autrichiens, avec le même instrument de mesure que de la dépression que j'ai utilisé dans cette étude chez les étudiants vétérinaires. Bon, quand je me compare, je me console, etc. Enfin, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est pas forcément une rassurant de savoir que ça va aussi mal ailleurs, mais en tout cas, c'est important de savoir, malgré tout, que c'est pas une spécificité des écoles nationales vétérinaires françaises. C'est un phénomène que l'on observe à l'échelle internationale. On l'observe également en Australie. On l'observe partout. Donc ça, c'est un point important à préciser. Alors, donc voilà, en ce qui concerne les étudiants vétérinaires, effectivement, un taux d'idéation suicidaire qui va au-delà de la population générale, mais comparé avec la population générale, évidemment, on ne compare pas toutes choses égales par ailleurs. De la même façon, chez les vétérinaires, il y a un taux d'idéation suicidaire, il y a un taux de burn-out, qui est particulièrement élevé. Si je fais des comparaisons avec d'autres données que j'ai travaillé sur moult groupes professionnels, eh bien, par exemple, on a un taux de... Le burn-out est composé de différents éléments. Il y a un premier élément qui est l'épuisement émotionnel au travail. L'épuisement émotionnel au travail est sinon plus élevé, du moins aussi élevé les exploitants agricoles, qui ont eux-mêmes un taux de suicide et d'idéation suicidaire et de burn-out particulièrement élevé. Il y a un taux de cynisme au travail qui est aussi une des composantes du burn-out qui est particulièrement élevé, avec, il faut signaler aussi, des différences importantes entre les hommes et les femmes sur ces dimensions du burn-out. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question.
Oui, déjà, grandement, même si nous allons convier nos auditeurs aussi à lire votre rapport, parce que c'est un rapport très très complet. Mais on peut aussi donner un dernier chiffre, hein, Didier Truchot. Je crois que on arrive à peu près à 15,7% hein, des étudiants qui ont déclaré avoir pensé mourir ou se faire mal dans les 15 jours précédents l'étude. En tout cas, ce sont des burn-out, des suicides en école, mais pas que, aussi en cabinet.
J'ai entrepris, donc ça va faire 3 ans, une psychothérapie qui me permet de... Ouais, ça me permet d'avoir bien avancé quand même. C'est-à-dire que je suis beaucoup, beaucoup moins angoissé, on va dire. Et moins, on parle beaucoup de lâcher prise. Hein, ça m'a permis de lâcher comme beaucoup de choses. Quand on se suicide, je pense que... Alors, ce n'est même pas une question de courage ou de lâcheté. C'est une question de mettre fin à une souffrance. Moi, je n'ai jamais été au stade où je ne pensais plus aux autres. Et donc, dans ces moments-là, je pensais... Ouais, si je me suicide... Comment vont réagir ma femme, mes enfants, si c'est eux qui me trouvent. En général, c'est vraiment quelque chose de très très difficile, quoi.
Extrait à nouveau du reportage diffusé dans Arte Regard le 18 mai 2023. Corinne Bisbard, une profession passion, mais une souffrance qui monte depuis quelques années. On en a parlé, un taux élevé de burn-out et de suicide entre, on dit, 3-4 fois plus que la population générale, 2 fois plus de risques de suicide que les autres professionnels de santé. Et j'ai relevé qu'en 2023, on estimait à près de 39% le nombre de vétérinaires à la limite du burn-out. Peut-être qu'on peut dresser avec vous les problèmes. En tout cas, c'est le symptôme de quel problème, de quel dysfonctionnement quand on est en cabinet ou sur le terrain.
Alors déjà, je pense qu'il y a cette notion de profession passion sur laquelle il faut revenir, voire même de sacerdoce, hein, dans l'imagerie populaire. La profession de vétérinaire, c'est une profession... Quand on annonce qu'on est vétérinaire, finalement, presque la moitié de la population a rêvé à un moment de faire cette profession, d'exercer cette profession. Mais l'image qui est véhiculée est peut-être un petit peu une image d'Épinal, et la réalité du terrain est passionnante. Hein, comme vous l'avez dit, ça fait 40 ans que j'exerce, je continue à aller exercer avec le même plaisir. mais sans doute pas pour les mêmes raisons à l'heure actuelle que celles qui m'ont poussée à devenir vétérinaire ou à annoncer un jour à ma famille que je voulais devenir vétérinaire. Et je pense que cette idéalisation du métier apparaît déjà quand on questionne les étudiants lorsqu'ils rentrent dans les écoles. Et au fur et à mesure de leurs études, ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses derrière et que c'était peut-être pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Les métiers au contact avec les animaux, alors en plus à l'heure actuelle avec les animaux de compagnie, prennent une place de plus en plus importante dans nos vies, dans nos sociétés. Il m'arrive régulièrement de recevoir des stagiaires troisième, je pense que tout le monde en reçoit.
À la maison de la radio aussi.
Oui. Et j'ai souvent cette question, pourquoi vous êtes devenu vétérinaire? Donc en fait, un jour, je me suis penchée dessus. Je pense que... Alors moi, je fais partie des générations de vétérinaires d'Actari. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série donc, qui a donné envie à plein de gens. Je ne sais plus exactement pourquoi j'ai voulu le devenir, mais je sais pourquoi je le suis encore. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut aimer les animaux, il faut avoir aussi cette facilité de contact. Mais je pense que dans la profession vétérinaire, il faut aussi beaucoup aimer l'humain. Parce que vétérinaire, c'est pas uniquement soigner les animaux.
C'est plusieurs métiers à la fois.
C'est un métier avec une relation très très spéciale. On a une relation tripartite. Le médecin, il a son patient devant lui. Nous, notre patient, c'est l'animal. On a un client qui est le propriétaire de l'animal et à nous. Et on est à trois dans cette relation. Et la relation vétérinaire, être humain en tant que propriétaire des animaux, que ce soit des animaux de rente. Donc j'entends par animaux de rente, tous ceux qu'on retrouve au concours agricole là en ce moment, ou les animaux de compagnie, ça c'est déjà important d'arriver à comprendre cette relation avec l'humain, avec ses anxiétés, avec les biais dans ce qu'il nous décrit, avec ses colères aussi, ses peines, et si on n'a pas cette propension à la relation humaine, effectivement, on va être un professionnel en souffrance. La troisième chose qui me pousse à aimer mon métier, c'est l'amour de la médecine. Et la médecine, c'est une science, pas forcément exacte, c'est une science prédictive. Mais c'est un peu comme une enquête, il faut aimer ça, et il faut aimer aussi rentrer dans le soin. Et le soin, ça peut être quelque chose, quelquefois un peu agressif, quelquefois considéré comme maltraitant. Et en fait, il faut arriver à de temps en temps, non pas passer par-dessus l'amour des animaux, mais aller au-delà. Pour réussir à soigner.
Avec probablement, Corinne Bisbard, la peur de l'erreur aussi, médicale, ou parce que ce n'est pas un patient en soi qui peut prendre la parole que vous avez en face de vous, ce sont ces animaux qui ne peuvent pas exprimer et répondre à vos questions. Et donc c'est à travers le maître, la maîtresse que vous avez des éléments et des renseignements. Pas facile, hein. Je crois que la peur de faire des erreurs, j'ai noté quand même dans les stress spécifiques identifiés par les études, donc la charge de travail, l'interface vie professionnelle, vie privée, ça c'est aussi important, négligence, maltraitance des clients vers les animaux, la charge émotionnelle face à la détresse des propriétaires, les problèmes financiers, les conflits avec les collègues, la peur de l'erreur, la peur des blessures, l'interruption pendant l'activité, etc., etc. Il faut considérer que les gardes de nuit, les heures travaillées, les week-ends, enfin, c'est un métier qui peut très vite vous déborder.
Alors, nous déborder, je ne sais pas, mais par contre, c'est un métier qui remplit complètement nos vies. Et alors, je pense que... C'est ce que je vous disais, on est quand même un certain nombre de vétérinaires à aller bien et à pouvoir trouver l'équilibre entre nos vies professionnelles et nos vies privées. Cet équilibre, il est tout le temps un petit peu remis en question. Je pense qu'il n'y a pas eu de semaine, voire de jour, sans que je m'interroge sur mes horaires, sur la façon dont j'allais pouvoir équilibrer ma vie de mère de famille hein, aussi, puisque j'ai été mère de famille. Et oui, l'équilibre est ténu. Après, pour ce qui est de la peur de l'erreur, effectivement, ça fait partie des facteurs de stress de la profession vétérinaire et de stress manifestement extrêmement important, en particulier chez les jeunes générations. Ensuite, est-ce que moi, à 25 ans, j'avais aussi cette peur de l'erreur ? Il n'y a pas eu d'études à ce moment-là, donc je ne peux pas le savoir. Peut-être aussi que j'ai appris à la gérer, à m'habituer, à faire un travail sur moi-même pour me dire que tout le monde fait des erreurs, y compris les médecins, y compris les meilleurs médecins, y compris les meilleurs chirurgiens. Donc oui, l'erreur nous fait peur. Mais en tant que vétérinaire, on a peur de l'erreur par les conséquences sur l'animal, mais aussi par les conséquences qu'elles vont avoir sur le propriétaire. Et puis éventuellement, par les conséquences, parce que là, j'ai ma casquette de vétérinaire animaux de compagnie, mais éventuellement les conséquences économiques qu'il va pouvoir y avoir sur un élevage, sur un... Donc, cette peur de l'erreur nous habite manifestement et je pense que ça fait partie d'un des leviers sur lequel il va falloir qu'on travaille. Non pas ne pas avoir peur de l'erreur, mais par contre, analyser les erreurs, je pense que les professions médicales le font peut-être mieux que nous. Les retours sur incident, peut-être qu'ils ont plus l'habitude d'en parler entre eux. On a un petit peu l'impression que les vétérinaires ont tendance à, ben, un peu comme je vous disais, comme quand on allait mal, à garder sur soi, et alors qu'on analyserait les erreurs, celles qu'on a pu rattraper, celles qu'on n'a pas pu rattraper, sans doute que cette peur pourrait être mieux contenue.
Alors avant de recueillir le regard, l'expertise, les paroles de Didier Truchot, je propose justement d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur RTS, la radio-télévision suisse, le 30 avril 2024. On a bien compris, il y a beaucoup de subtilités, de nuances, hein, des différences aussi, des différences qui se voient selon le statut, l'âge, la nature de l'exercice et puis le sexe. Vous allez entendre une jeune femme qui explique comment elle a trouvé peut-être un moyen de dépasser cette pression et ses angoisses.
J'ai commencé la méditation qui m'a fait un premier pas, je dirais, dans la prise de recul par rapport à mon travail. Et puis, je continue maintenant mon chemin et je me rends compte que c'est mon cerveau, quelque part, qui crée tout ça. Donc j'essaie de me détacher de mon cerveau qui crée tout ce stress, que les journées seront les mêmes, que je me mette dans des états pas possibles ou pas. Enfin, elles ne seront pas les mêmes, justement. Donc là, je fais beaucoup un travail sur moi, sur... cette fatigue mentale. Et puis là, je reprends pied, alors ça va mieux. C'est pas encore... Il y a des journées qui sont vraiment très chargées, où je sens que... Bon, il y a des sollicitations, mais vraiment, vraiment, mais constamment. Je me dis, bah, il faut pas 2-3 jours comme ça à la suite, avec une mauvaise nouvelle, avec un reproche d'un client, ou parce que là, ça va repartir. Je pense pas que je finirai ma carrière en tant que vétérinaire, mais je ne suis pas encore prête à partir, parce que j'ai vraiment envie d'arriver à prendre cette distance, à mettre un rythme et à transmettre aussi mon cabinet à un futur vétérinaire. Mais je ne crois pas que je tiendrai jusqu'à 60 et quelques années.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Didier Truchot, je vais vous laisser réagir à la fois aux paroles et au développement de Corinne Bisbard précédemment, et puis à ce témoignage. Je disais qu'il y avait aussi des différences dont il faut tenir compte, le sexe notamment. C'est un métier qui s'est vraiment féminisé depuis les années 80, ou avant le métier était plus masculin. Il y a visiblement, Didier Truchot, un peu plus de femmes, et aussi, on disait, les jeunes qui sont peut-être surreprésentés dans la catégorie de ce mal-être.
Alors, pour répondre complètement à votre question, donc pour réagir déjà sur ce que, ou pour compléter ce qu'a dit Corinne Bisbard, c'est vrai que la charge de travail est particulièrement importante chez les vétérinaires et que le débordement en tout cas de la charge de travail sur la vie privée est quelque chose qui impacte beaucoup sur les processus qui relient le stress professionnel avec les idéations suicidaires, notamment ce que j'ai pu observer à travers non seulement les données statistiques, mais à travers les verbatims que laissaient les vétérinaires en fin de questionnaire. En fin de questionnaire, je propose toujours aux personnes interrogées, aux participants, je leur dis toujours, voilà, il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été abordés par ce questionnaire. Si vous souhaitez les exprimer, bien voilà, vous avez du temps, enfin de l'espace pour les exprimer. Et j'ai plusieurs centaines de pages d'écrits de vétérinaires, et on voit bien à travers leurs écrits combien cette charge de travail, à la fois, son débordement sur la vie privée va jouer beaucoup sur un sentiment d'appartenance contrariée, c'est-à-dire le fait que, eh bien, on est plus présent pour les siens. On n'a plus de relation réciproque avec les siens, et certains me disent, mais moi quand je rentre au boulot, je n'ai plus, soit je gueule parce que je suis énervé par mon travail, ou soit je ne suis plus disponible, je n'ai plus de relation avec mes enfants, je n'ai plus de relation avec mon conjoint, ma conjointe. Donc ça, cette absence, cette solitude douloureuse en quelque sorte du vétérinaire liée à la charge de travail, solitude par rapport à la famille, par rapport à ses proches, cette absence de soutien réciproque est vraiment particulièrement importante. Il y a aussi ce sentiment d'être un fardeau pour les siens, l'idée que on est inutile, que finalement sa famille irait beaucoup mieux si on n'était pas là. Le sentiment d'être piégé dans sa situation, ça c'est un terme qui revient dans les travaux sur le suicide, hein, quand on a un sentiment d'être piégé, d'être coincé dans sa situation. Et j'ai beaucoup de verbatim, évidemment je ne les ai pas mis de côté pour les lire, mais on les trouve dans les rapports de recherche qui sont sur le site du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. On a vraiment ce sentiment important d'être piégé. Concernant la peur de l'erreur, effectivement, c'est un élément qui revient très 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 fortement et qui revient au niveau longitudinal, c'est-à-dire que la peur de l'erreur à un moment donné engendre des idéations suicidaires encore 18 ou 33 mois plus tard. Donc c'est vraiment un stresseur qui est particulièrement fort. Et il y a un stresseur dont on a parlé, ça vaut la peine de revenir, c'est la relation avec les propriétaires. En fait, on évoque souvent les questions de violence, les questions d'agressivité. Effectivement, ça existe, mais c'est pas le ce qui impacte le plus sur la santé des vétérinaires. Ce qui impacte le plus parmi les différents comportements abusifs des clients, dans un travail de thèse que j'ai dirigé avec l'étudiante s'appelle Manon Leroy, on a identifié dans ce travail de thèse six grands comportements abusifs des clients. Donc il y a l'agressivité, les exigences excessives, le sentiment de vivre des relations inéquitables, les incivilités, les clients avec lesquels on a du mal à se faire payer, et le bashing sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce qui impacte le plus sur la santé des vétérinaires, et on revient à la profession vocation, c'est la question de la profession vocation, c'est le fait de vivre des relations d'inéquité, des relations de non-reconnaissance avec les propriétaires d'animaux. Et ça, c'est un phénomène que l'on va retrouver, c'est un processus que l'on va retrouver chez l'ensemble des soignants. J'ai bossé sur des médecins, des infirmiers, j'ai bossé en cancéro, etc., etc. Le sentiment que finalement j'investis dans une relation, je donne du temps dans la relation, je donne des compétences dans la relation, je donne, je me fais du souci pour le bien-être de l'animal, et en retour, je ne suis pas reconnu, le patient ne dit pas merci, etc., etc. Quand on est dans ce genre de relation d'inéquité, on vit un sentiment d'injustice. On a le sentiment que le contrat implicite qu'il y a attendu entre moi et le propriétaire, il est rompu, et on va ressentir de la détresse, on va ressentir de la frustration. Et c'est un sentiment, alors quand vous le ressentez une fois avec un propriétaire, ça passe, mais quand vous le ressentez régulièrement, quand ça devient régulier dans les relations que vous entretenez avec les patients ou les propriétaires d'animaux, ça finit par tarauder les ressources, ça finit par créer des déceptions, et des déceptions qui viennent s'ancrer psychologiquement dans la façon dont le vétérinaire perçoit les choses. Et c'est vraiment un élément essentiel. Et Parmi les professions, enfin parmi les spécialités, pardon, qui vont le plus mal, celles qui valent le plus mal, c'est les animaux de compagnie. Et on sait effectivement aujourd'hui à quel point il y a un surinvestissement affectif. Je pourrais citer des anecdotes. Il y a un surinvestissement affectif de l'animal de compagnie qui devient un membre de la famille. Et ça, effectivement, c'est difficile avec ces propriétaires-là qui ont des attentes excessives, des exigences excessives. Les exigences excessives sont aussi après le sentiment d'inéquité. Font partie des exigences excessives, pardon, font partie des stresseurs qui agissent plus que le fait d'avoir affaire de temps en temps à des patients agressifs. Alors ça, c'était pour continuer de réagir à ce que disait, pour compléter ce que disait Corinne. Et la deuxième partie de votre question, je me souviens plus.
C'était une réaction au témoignage de cette jeune femme qui passe par la méditation.
Vous me posiez la question. Vous me posiez la question des différences de genre, pardon.
Oui.
Alors effectivement, ce qui est important de signaler, c'est que chez les vétérinaires, c'est une profession qui est traditionnellement masculine. Au départ, il y a 100 ans, on n'imaginait pas une femme vétérinaire. On n'imaginait pas une femme vétérinaire qui allait soigner ses animaux mâles, tels que les taureaux, etc., etc. C'était absolument incongru, le fait de se le représenter. Donc, c'est une profession qui traditionnellement est masculine, mais qui est en train de se féminiser, puisque il y a de plus en plus de femmes dans la profession. Et dans les écoles, on arrive à 70% dans les promotions de femmes versus évidemment 30% d'hommes. Et dans certains pays comme les États-Unis, c'est encore l'espace entre hommes et femmes est en train de s'agrandir. J'ai entendu dire que maintenant, dans certaines promotions, on arrivait à 100% de femmes. Donc ici, dans mes travaux, donc les trois études que j'ai menées en 2021, 2022, 2024 auprès des étudiants vétérinaires, des vétérinaires professionnels, pardon, pour le Conseil national de l'ordre et tout entre aides, on observe que il y a un épuisement émotionnel qui est plus élevé chez les femmes vétérinaires que chez les hommes. Donc, c'est la première dimension du burn-out. Alors ça, c'est pas étonnant, c'est quelque chose qu'on observe généralement dans toutes les professions. Donc, il y a cet écart homme-femme. Les femmes sont plus épuisées professionnellement que les hommes. C'est très significatif comme différence. Alors, on l'explique par plusieurs facteurs qui sont non exclusifs les uns des autres. Donc, premièrement, les femmes ont plus elles investissent davantage les tâches domestiques. Encore aujourd'hui, c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai trouvé dans les données sur les vétérinaires, mais j'ai les mêmes données chez les médecins, par exemple, que quand ils vivent en couple, les hommes consacrent davantage de temps à leur travail, et quand elles vivent en couple, les femmes consacrent moins de temps à leur travail comparativement aux situations où ils vivent seuls. Donc,
tout cela vient s'ajouter sur les épaules de ces jeunes femmes, Didier Truchot. Ouais.
Donc, activité professionnelle importante. Les femmes au travail font face à des pressions psychosociales, notamment les stéréotypes sexistes, qui leur dressent des réputations d'infériorité. Donc ça, c'est quelque chose qui est taraudant psychologiquement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le métier de vétérinaire est façonné traditionnellement par des valeurs et par des normes masculines. Et on sait que quand il y a des normes masculines, notamment compétitives, quand il y a un caractère compétitif dans le métier. Chez les étudiants vétérinaires, par exemple, bien qu'il n'y ait pas de classement dans les études, on voit ce caractère compétitif qui apparaît très nettement. Eh bien, dans une culture masculine, les hommes compétitifs ont moins de burn-out. En revanche, dans ce genre de culture, chez les femmes, c'est l'inverse. Plus elles sont compétitives, donc plus elles s'adaptent à la culture masculine, plus elles ont des scores élevés d'épuisement émotionnel.
D'accord.
Donc, voilà ce qu'on observe en ce qui concerne l'épuisement émotionnel. Et en revanche, un résultat intéressant, c'est que normalement, dans toutes les études, dans la plupart des études, on voit que la deuxième dimension du burn-out, le cynisme, la mise à distance des chances du métier, des collègues, des clients, etc., la mise à distance est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Normalement, c'est ce qu'on observe.
D'accord.
C'est pas du tout ce qu'on observe chez les vétérinaires. Vous êtes en train de me couper la parole et vous avez une autre question à me poser, c'est ça?
Ah non, je vois l'heure tourner, mais je vous trouve extrêmement éclairant, Didier Truchot, et en distanciel, ce n'est pas toujours facile, bien évidemment. Je sens que la liaison n'est pas forcément très bonne, mais ce que vous nous dites est très important, parce que c'était justement un point crucial, c'est de sentir qu'il y avait aussi ces différences, cette subtilité et aussi des différences de genre. Avant de pouvoir continuer sur ce terrain-là, Corinne Bisbard, je vous propose d'écouter votre choix musical qui n'est pas anodin. Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Et en nous proposant cette chanson, vous disiez, ça me parle effectivement énormément.
Oui, oui, oui. C'est à chaque fois que j'écoute cette chanson, elle me tord les tripes. Et puis surtout, je pense que je m'y reconnais tellement parce que, en fait, oui, nos vies professionnelles sont faites de doutes, mais après, le doute peut être une excellente chose, c'est-à-dire que douter de son avis, de son diagnostic, le remettre en question, savoir le remettre en question. Et moi, je fais partie d'une génération où on nous a appris cette médecine un petit peu toute puissante. Mmh. J'ai pas appris à l'école à remettre en doute un résultat d'analyse, par exemple. Et c'est progressivement que je l'ai appris, et qu'est-ce que ça fait du bien.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons.
Anne Sylvestre qui chante « Les gens qui doutent », le choix musical de Corinne Bisbard. Et nous poursuivons notre magazine de l'environnement sur France Culture, De cause à effet. Aujourd'hui, nous intéressons aux vétérinaires des écoles au terrain et à la montée d'un mal-être. Du vétérinaire de ville au vétérinaire de campagne, regard porté sur cette profession en souffrance et sur les défis à relever des études, donc des cas des étudiants en école, au travail, sur le terrain. Nous sommes avec Didier Truchot, professeur émérite des Université de Franche-Comté, spécialisée en psychologie sociale et auteur de plusieurs études sur la santé vétérinaire en France, et vice-président du réseau de recherche sur la qualité vie au travail en santé. Et puis Corinne Bisbard, docteur vétérinaire libérale, ancienne vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires et responsable de la commission sociale de l'Ordre des vétérinaires jusqu'en décembre dernier. Le statut de l'animal, Corinne Bisbard, a évolué, on le perçoit. Est-ce qu'il y a corrélation, peut-être selon vous, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on perçoit une corrélation entre les acquis et le mal-être des professionnels? Donc l'animal est reconnu par le code civil comme un être vivant doué de sensibilité. Mmh. Les animaux de compagnie ont intégré 61% des foyers, ils représentent aujourd'hui environ 80 millions en France. On voit bien que les relations sont peut-être autres aujourd'hui. Est-ce que vous avez perçu cette évolution?
Alors, l'évolution, elle a lieu, le plus visible, c'est sur l'animal de compagnie, mais la modification du statut de l'animal, elle se voit aussi chez les animaux de rente, chez les animaux de laboratoire, chez les animaux des zoos. Il y a la problématique des animaux des cirques, des delphinariums. Donc, en fait, c'est global, cette modification du statut. Et c'est une excellente chose parce que en même temps, il y a eu une montée des luttes contre les maltraitances et je pense que c'est une bonne chose. Au niveau des animaux de compagnie, le statut a changé, mais en fait, ce qui a surtout changé, je pense, c'est leur place dans la famille et le comportement d'un certain nombre de propriétaires vis-à-vis d'eux.
Je vous propose justement d'écouter tout petit extrait de reportage, l'émission diffusée sur la radio-télévision suisse le 30 avril 2024.
Il y a les couples qui n'ont pas eu d'enfants, qui prennent un animal, qui peut prendre, pas toujours, hein, mais des fois l'animal il prend vraiment la place du bébé. Et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et je pense que si quelqu'un me parle de son bébé à la première consultation, je ne suis pas sûre que je vais continuer de suivre cette personne. Parce que ça nous met une pression dès le départ. J'ai eu ça, justement, ça s'est mal fini. Et je me suis dit, la prochaine personne qui me dit « c'est mon bébé, il ne faut rien que lui arrive », je lui dirais « bah, je suis allée dans un centre de spécialistes ». Parce que dès le départ, on nous met une pression.
Corinne Bisbard, une réaction?
Oui. On l'entend régulièrement. Alors après, considérer son animal de compagnie comme un enfant, d'abord, je suis pas sûre que ça soit une bonne chose pour l'animal de compagnie. C'est-à-dire que ça peut être à l'origine de vraies déviances et ça m'arrive de temps en temps de me poser la question de savoir si les animaux sont vraiment heureux dans certaines maisons. Mais bon, après, j'ai 65 ans, hein, donc j'ai peut-être aussi une vision trop âgé maintenant.
En même temps, vous avez ce vécu qui nous permet aussi d'avoir des retours d'expérience et de terrain.
Oui. Effectivement, ça nous met une pression. Au contraire de ma consoeur, moi, j'essaye de tous les traiter de la même façon et de pas me laisser mettre cette pression-là. Par contre, oui, ça peut être des consultations épuisantes, c'est-à-dire qu'il m'arrive de sortir d'une consultation et de me sentir mais vidée émotionnellement et même physiquement, tellement ça a été compliqué. Après, on arrive quand même à, de temps en temps, recentrer les choses. Et puis, de toute façon, il faut faire avec. Ça fait partie, enfin, pour moi, ça fait partie de notre métier.
Et il y a aussi la question d'un métier peut-être devenu un peu plus dangereux.
Il y en a qui partent du principe que s'ils payent beaucoup, eh ben, ils doivent avoir un résultat. Sauf que dans la médecine, on ne peut pas garantir ça. Il y avait une fois une personne qui a clairement dit que c'était son chien était comme un enfant pour lui et que s'il lui arrivait quelque chose, il me tuait. Donc voilà, ça c'est des choses qui marquent.
Corinne Bisbard, vous avez vécu ça, hein. Vous pouvez en témoigner d'ailleurs, des menaces de mort, notamment un soir, un propriétaire de chien inconnu de vous, qui exige de vous de sauver son animal sous la menace justement de vous tuer.
Alors, heureusement, c'est rarissime hein, comme attitude. C'est choquant. Quand je l'ai vécu, parce qu'effectivement, c'était un soir à 8 heures, hein, à la fermeture de... Enfin, pas tout à fait, à la fermeture du cabinet. J'avais encore un client dans ma salle de consultation. Sur le coup, j'ai peut-être un peu joué à la fière. Alors après, est-ce que ça a un rapport avec ces attitudes un peu masculines? C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas abattre, même pas mal. Et j'ai mis plusieurs semaines à me rendre compte que oui, ça m'avait ébranlé, que ça avait modifié ma façon de faire. Maintenant, une fois que le dernier client est dans la salle d'attente, on ferme à clé. Pendant des années, j'ai pris des gardes de nuit, seule, parce que on parle de la charge de travail, mais oui, il y a ce problème, des gardes de week-end, des gardes de nuit. Une majorité de vétérinaires travaillent seuls ou à deux ou trois, donc en fait il n'est pas possible de prendre des gardes à plusieurs, donc on est seul dans le cabinet. Et je me souviens de ma famille qui me disait « mais t'as pas peur, tu te mets en danger, tu... » Et c'est peut-être à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça pouvait de temps en temps être dangereux, même si finalement les incidents graves sont quand même assez rares, mais c'est toujours un incident de trop. Après, c'est des comportements excessifs. Moi, ce que j'entends beaucoup plus souvent, c'est « si je perds mon animal, je me tue ».
Ah oui.
Et ça aussi, ça nous ébranle. Moi, ça me met pas en danger. Enfin, si, ça me met en danger psychologique. Et j'essaye toujours de ramener les choses au raisonnable. Je me souviens aussi d'une dame qui venait de perdre son... C'était un petit Yorkshire cardiaque, très âgé, qui venait de mourir. Et elle était avec sa fille et son mari dans ma salle de consultation. Et elle m'a dit, je viens de perdre ce que j'ai le plus cher au monde. Et alors gentiment, parce que je suis plutôt quelqu'un dans l'empathie, je lui ai dit, je conçois ce que vous dites, mais non, vous avez à côté de vous votre mari et votre fille. Après, elle aurait pu très très mal le prendre, que je me permette de lui dire ça, mais à un moment, oui, il faut fixer les limites.
Didier Truchot, on perçoit beaucoup de choses dans ces retours de terrain, ces témoignages. Il y a aussi le fait de d'euthanasier. Le geste n'est pas anodin. Est-ce que vous avez perçu dans les études que vous avez menées que c'est peut-être un geste plus difficile, le rapport même à l'animal, la confrontation quotidienne à la mort, la peur de la blessure, bon bref. Mais pratiquer l'euthanasie, c'est l'acte de donner la mort. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que pour se suicider, les vétérinaires ont à disposition tout le matériel. C'est-à-dire, certains disent, si je veux me suicider, je me pose une perf et puis et voilà, et c'est fini. Ce geste-là, ce contexte-là, qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, dans vos études ?
Oui, alors, en ce qui concerne la peur de l'euthanasie, les vétérinaires montrent qu'effectivement, c'est un stresseur qui est perçu par les étudiants, mais en revanche, c'est un stresseur qui n'a aucun impact sur le burn-out, la dépression, l'anxiété, les idéations suicidaires, c'est un stresseur qui ne joue pas. Mon interprétation par rapport à ça, c'est que les étudiants savent, quand ils sont à l'école, qu'ils auront à faire des euthanasies. Ça fait partie des éléments spécifiques de la profession vétérinaire. On sait que les stresseurs qui sont spécifiques à une profession, qui ont la réputation d'être spécifiques à une profession, ne sont pas forcément les stresseurs qui impactent le plus sur les professionnels parce que ils sont préparés. Donc c'est pas tellement ces stresseurs-là qui vont jouer. La deuxième question, excusez-moi, je l'ai oublié.
Eh bien, c'était de dire que se donner la mort pour des vétérinaires, c'est un acte peut-être plus, facile. Je mesure mes mots, parce qu'ils ont tout le matériel.
Oui, tout à fait. Oui, alors tout à fait. Alors, il est probable que, en revanche, la crainte, de pratiquer des euthanasies familiarise d'une certaine façon avec la mort, avec la finitude et donne une sorte de capacité acquise à suicider. On sait que pour passer à l'acte, il faut non seulement avoir des idéations suicidaires, mais tous les gens qui ont des idéations suicidaires, heureusement, ne passent pas à l'acte. Et l'absence de peur face à la mort, l'augmentation de la tolérance face à la douleur, toutes ces capacités-là vont jouer beaucoup sur le fait d'acquérir la capacité de suicider, la capacité à passer à l'acte. Donc, à la fois, je dirais que la banalisation des euthanasies fait que les vétos ne craignent pas de faire des euthanasies, en tout cas, ça ne ressort pas de mes études, mais en revanche, ça peut banaliser la mort, etc. Et si on prend les professions qui se suicident le plus, les agriculteurs se suicident beaucoup, les médecins généralistes se suicident beaucoup, les policiers se suicident beaucoup, etc., etc. Toutes les professions chez lesquelles il y a une prévalence élevée de suicides, sont des professions qui ont le moyen létal à disposition, les dentistes aussi, que ce soit un produit, que ce soit le fusil de chasse ou la corde dans la grange pour les exploitants agricoles, etc., etc. Donc la proximité du moyen létal joue beaucoup sur le passage à l'acte.
Alors, Corinne Bisbard, Didier Truchot parle du monde agricole. Je propose d'écouter un dernier document sonore. Ce monde agricole aussi vit des difficultés et peut-être que ça ajoute un poids aux angoisses du quotidien.
Nous, ça nous arrive de pleurer avec les propriétaires, ça nous arrive de pleurer entre nous. Il faut garder ce côté humain, mais on arrive à prendre plus de recul, aider un vieil animal à partir parce qu'il est temps. Nous, on voit ça un peu comme un soulagement. Et le problème, c'est qu'il faut avoir de l'empathie, mais pas trop, parce qu'autrement, on y laisse un peu des plumes, et c'est là où ça peut être la dégringolade. Ce qui m'aide, c'est travailler en équipe. Ça, vraiment, toute seule dans un cabinet, je pense que j'aurais pas forcément les épaules. Parce que c'est un métier de cœur et que des fois, on n'arrive pas à dire stop. Un vétérinaire rural qui est plus isolé et que les éleveurs l'appellent toute la nuit et que le lendemain, il doit quand même faire sa journée et puis qu'il a une fête de famille, mais l'éleveur l'appelle parce que ouais, mais j'ai une césarienne, c'est urgent. Bah, il peut pas dire non. En fait, il y a ce. S'il dit non, qui y va ? Personne. On est en pénurie complète.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 18 janvier 2025. Corinne Wiesbach. Alors, on entend dans ce reportage aussi qu'il y a pénurie. Je crois qu'en 2023, on estimait qu'il manquait 800 à 1000 vétérinaires, surtout dans le monde rural. Là aussi, c'est une autre dimension. Mais ce monde rural qui vit bah, des crises, hein, la grippe aviaire, la crise de dermatose nodulaire bovine. Il y a des cas hein, que j'avais noté qu'une vétérinaire a abandonné son poste car elle a été victime d'une plainte déposée par un éleveur de Quérac en Gironde. Reproche a été fait de ne pas venir à temps alors qu'elle était déjà sur une autre urgence. Ce sont des situations dont il faut tenir compte aussi.
Oui, après, ça a été une situation qui a été très, très médiatisée, mais ce qui en est ressorti dans la description médiatique, c'est pas exactement comme ça que ça s'était passé.
Hein. D'accord.
Mais effectivement, elle a eu des menaces et surtout, ça a un petit peu, entre guillemets, fait le buzz parce que l'animal est décédé, mais la pauvre, elle était en rien responsable. Mmh. Heureusement, elle a bénéficié quand même d'un gros soutien de son entourage vétérinaire. Elle travaillait dans un cabinet de groupe. Et elle a été soutenue. Et ça, c'est important. Effectivement, je pense que... Alors, la profession s'organise et de plus en plus exerce en groupe, se réunit, y compris en rural. Il y a encore quelques vétérinaires ruraux qui exercent seuls, mais pour partager la charge de travail et pour, effectivement, essayer de faire face à ces situations complexes de propriétaires, d'éleveurs... qui peuvent devenir un petit peu agressifs. Ce qui est sûr, c'est que le monde vétérinaire est touché par la crise du monde rural, touché psychologiquement, touché aussi économiquement, hein, parce que de toute façon, tout est lié. Les vétérinaires sont indispensables pour conserver un maillage sanitaire. Il faut quand même pas oublier que un grand pan de la profession, c'est de la santé publique. C'est-à-dire que le vétérinaire, il est là pour soigner les animaux, en particulier les animaux de compagnie. Mais même le vétérinaire spécialiste des animaux de compagnie a une charge de sa profession qui a trait à la santé publique, avec un certain nombre de décisions qui sont peut-être pas toujours bien comprises, qui sont quelquefois un petit peu montées en épingle, médiatisées, mais qui pourtant restent des décisions indispensables. Les déclarations de morsure, les déclarations de maltraitance, les éventuels recours à l'euthanasie sur des animaux dangereux, voire sur des animaux contagieux, font partie de notre métier et il faut, ben c'est pareil, ça s'enseigne dans les écoles. Des fois, on le découvre une fois qu'on est à l'école, mais c'est une part extrêmement importante.
Alors, au-delà justement des réponses données par les écoles, et tout cela c'est en cours, quel autre soutien ou quelle solution pour améliorer peut-être cet état de mal-être ? Il y a des cellules d'entraide, hein, Veto Entraide notamment.
Alors, il y a déjà Veto Entraide, hein, qui est une association qui est maintenant ancienne, qui a été créée suite à plusieurs suicides, justement. C'est de l'écoute bienveillance par des professionnels, c'est-à-dire que ce sont des vétérinaires formés à l'écoute, avec une ligne d'écoute 24/24. Et c'est vrai que quand un vétérinaire va mal, il va se sentir peut-être mieux compris par un autre vétérinaire que par un professionnel. Souvent, ça ne peut pas suffire. Le Conseil national de l'ordre est devenu adhérent partenaire à la plateforme Soins aux professionnels de santé. Donc ça offre déjà une plateforme de prise en charge par des psychologues, voire par des psychiatres, voire des hospitalisations d'urgence. Ça traite le mal-être, ça peut aussi être une solution pour traiter certaines addictions. Et puis, c'est une association qui fait plein de formations sur... l'équilibre de la vie, la meilleure alimentation du professionnel et qui offre tout un panel de choses. La profession est en train de s'en de s'emparer de cet outil-là.
Et nous allons poursuivre justement nos émissions sur ce sujet vétérinaire avec toute une collection, et le métier mérite bien cela, un métier qui suscite toujours la passion et le rêve, mais qui a besoin aussi d'aide. Merci à tous les deux, Didier Truchot, Corinne Bisbard, et à vivre dans 2 semaines justement le volet 2 de cette émission Profession vétérinaire sur des terrains sensibles, veto des gens des rues et veto de fin de vie à domicile. Livres, liens, informations sont à votre disposition comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.